DW. Info Matin.
Info Matin, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 6 septembre 2018. Il est 7h en temps universel et 9h ici à Bonn. Vous êtes à l'écoute d'Info Matin sur la DW, la radio internationale allemande. Au micro pour la présentation de notre première édition de la journée, Kosivitiasu et Fréjus Guedon. Bonjour Fréjus.
Bonjour Kosivitiasu, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, le gouvernement refuse toujours l'offre d'aide logistique pour les scrutins de décembre. L'opposition parle de mascarade électorale. En vue.
Le Burundi conteste, mais l'ONU persiste et signe. Des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des viols ont été commis au Burundi sous la responsabilité du président Pierre Nkurunziza.
C'est le 50e anniversaire d'indépendance de Eswatini. Vous connaissez peut-être ce pays, c'est le Swaziland qui a été ainsi rebaptisé.
Également au menu, l'histoire de trois jeunes chercheurs camerounais qui militent pour la réappropriation de l'histoire de l'Afrique par les Africains. Info Matin, c'est aussi la chronique sportive. Sophie Servini nous parle aujourd'hui d'une nouvelle compétition européenne de football, la Ligue des Nations qui débute ce soir. Vous êtes à l'écoute d'Info Matin sur la DW et on commence tout de suite par le Flash Info avec Fréjus Guedon.
Bonjour, l'ambassade du Paraguay en Israël est de nouveau transférée à Tel Aviv. Décision du président Mario Abdo Benitez qui a pris ses fonctions le 15 août dernier. Il y a seulement 3 mois et demi, son prédécesseur Horacio Cartes a fait déménager la représentation diplomatique à Jérusalem, emboîtant ainsi le pas des États-Unis et du Guatemala. La réaction de l'État hébreu ne s'est pas fait attendre. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné la fermeture de l'ambassade d'Israël au Paraguay.
Aux États-Unis, un avion chargé de passagers malades est placé en quarantaine à New York.
L'avion de la compagnie Emirates est en provenance de Dubaï. À son bord, 521 personnes qui ont subi des contrôles sanitaires à l'atterrissage sur la base de soupçons d'une épidémie de grippe. L'appareil est donc mis en quarantaine à l'aéroport John F. Kennedy de New York. 10 voyageurs, dont 7 membres de l'équipage, ont été conduits à l'hôpital. Encore aucune indication précise sur la nature réelle du mal. Des mécontents dans l'entourage du président Donald Trump. Le journal New York Times a publié une tribune anonyme dans laquelle l'auteur, présenté comme un proche du président des États-Unis, affirme que de nombreux collaborateurs s'évertuent à empêcher certains points jugés extrêmement dangereux du programme d'action de Donald Trump. L'homme parle de traits immoraux du caractère du président.
La Libye pourrait totalement passer sous la coupe de groupes terroristes de toutes tendances.
Alerte lancée hier par l'émissaire de l'ONU en Libye, Hassan Salamé s'adressait à distance aux membres du Conseil de sécurité après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre les différentes milices qui se sont combattues ces derniers jours à Tripoli. 61 morts et 159 blessés. Malgré cet accord, la situation reste fragile. En plus, le groupe d'État islamique serait en train d'étendre ses tentacules dans le pays. Lors de la même séance, le représentant de la Libye auprès de l'ONU, El Mardi El Majerbi, a lancé cet avertissement.
Écoutez. Lorsque le langage des armes domine la scène, il est difficile pour tout gouvernement de fonctionner. Il est aussi impossible pour les institutions de fonctionner. Voilà pourquoi le désarmement des groupes doit être la première des priorités.
L'Allemagne et la Turquie en route vers une réconciliation difficile.
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, en séjour en Turquie, et son homologue Mevlüt Cavusoglu ont annoncé avoir eu des échanges constructifs. Cavusoglu indique cependant n'être prêt à accepter aucune condition pour ce processus de rapprochement après des mois de querelles entre les deux pays. Berlin exige en fait la remise en liberté de 7 ressortissants allemands emprisonnés en Turquie pour des raisons politiques. Les pays américains sont à la recherche de solutions aux flux intenses de migrants d'origine vénézuélienne. Le secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique, Luis Almagro, parle d'une crise sans précédent dont les conséquences sont comparables à celles d'une guerre. Il a appelé les États à aider les réfugiés qui fuient la crise politique et économique dans laquelle le Venezuela est plongé. Et puis en Afghanistan, 2 bombes ont explosé dans la capitale Kaboul, faisant 20 morts. Un kamikaze s'est fait exploser dans un club de sport. Peu de temps après, une autre explosion a retenti au même endroit. Cette ultime explosion visait vraisemblablement des secouristes et les journalistes arrivés sur les lieux ont des nombres 70 blessés.
Merci Fréjus Guedon. Il est 7h05 en temps universel.
DW.
Malgré l'insistance des Nations Unies, le gouvernement congolais refuse toujours l'offre d'aide logistique de la MONUSCO dans l'organisation des prochaines élections. Des élections que compte gagner la majorité présidentielle.
La majorité présidentielle, qui s'appelle désormais donc le Front commun pour le Congo, se dit confiante de gagner les scrutins de décembre prochain. Mais l'opposition parle de son côté de processus non transparent, façonné et tronqué en faveur de la majorité présidentielle. Fiacre Ndaïra Guigé pour plus de détails.
La première cible des critiques de l'opposition est la CENI. La commission électorale chargée de l'organisation des élections est accusée de jouer le jeu du pouvoir. C'est de l'opacité totale. Seul le gouvernement dicte sa loi, nous a déclaré Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, écarté de la course à la présidentielle. L'autre élément qui aggrave la méfiance est le refus d'accueillir des observateurs internationaux. Dans une interview qu'il a accordée à la télévision Congo No. 1, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, s'est montré catégorique et sûr de lui.
Jamais, jamais nous au pouvoir, et puisque nous serons encore au pouvoir parce que l'opposition ne s'est pas préparée, il faut oublier l'implication de la fameuse communauté internationale dans les processus électoraux comme envoyé spécial.
Mandaté par la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a dernièrement été requisé par Kinshasa qui estime que son travail représenterait une violation flagrante de la souveraineté nationale. Une affirmation qui refute Olivier Kamitatou, le porte-parole de Moïse Katumbi.
Il veut le faire à huis clos. Je crois que personne n'est dupe de cette volonté tout d'un coup de revendiquer une souveraineté dont on ne peut lui attribuer l'attribut quand il doit développer son pays. Je crois simplement qu'on veut organiser une vaste tricherie.
De son côté, Bruno Lapika, professeur à l'université de Kinshasa, analyse le discours politique et du pouvoir comme le reflet de son arrogance.
Ce sont des déclarations péremptoires de tout parti au pouvoir qui croit qu'il a bien ficelé le processus. Et c'est pour cela que les gens qui veulent une transition avant ces élections n'ont pas tort. Parce que quand vous laissez quelqu'un qui est au pouvoir organiser les élections, ben c'est normal qu'il les gagne.
Face à cela, l'opposition paraît bien faible et peine à faire entendre son message. Et ceci, d'autant plus que ses deux principaux candidats, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ne pourront pas se présenter à l'élection présidentielle.
Merci Fiacre Ndaïra Guigé. Les sept militants du mouvement Lutte pour le changement, la Loucha, arrêtés lundi dernier à Goma, dans l'est de la RDC, ont été libérés hier. Ils étaient dans la rue pour manifester contre la machine à voter, ce que dénonce aussi l'opposition congolaise.
La société civile congolaise est inquiète par ailleurs de la recrudescence d'enlèvements de civils suivis de demandes exorbitantes de rançons dans l'est du pays. L'est où l'armée accuse les jeunes de complicité avec les groupes armés dans ces
Toujours dans l'est de la RDC, deux personnes ont été tuées dans des combats entre l'armée congolaise et des rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR.
Le HCR appelle donc les États à ne renvoyer vers la Libye aucun ressortissant de pays tiers intercepté ou sauvé en mer. L'organisation onusienne demande aussi que les personnes ayant besoin de protection internationale accèdent à des procédures d'asile justes et efficaces après leur débarquement. Des violents combats ont encore secoué Tripoli cette semaine. On le disait dans le bulletin d'information, tout à l'heure un calme précaire règne depuis la conclusion d'un accord de cessez-le-feu.
Vous écoutez la DW.
La commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi a présenté hier à Genève son rapport sur les violations des droits de l'homme dans le pays les deux dernières années et elle met en cause le président Pierre Nkurunziza en personne.
Selon les rapporteurs des Nations Unies, les discours haineux du président Nkurunziza alimentent les crimes commis dans le pays. Entre 2017 et 2018, les experts onusiens disent n'avoir noté aucune amélioration de la situation des droits de l'homme dans ce pays depuis le début de la crise née de la candidature de Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat en avril 2015.
Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des viols sont documentés par les enquêteurs onusiens et pourtant les autorités refusent toujours de coopérer avec eux. C'est ce que déplore au micro de Sandrine Blanchard, Françoise Hampson, elle est membre de la commission d'enquête.
On a essayé à plusieurs reprises en prenant contact avec les autorités du Burundi ou à Genève ou dans le pays même. Et ils ont refusé de nous donner des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas travailler avec nous. et pas question d'entrer dans le pays. Mais ça ne nous a pas empêché d'enquêter, parce que avec les moyens maintenant, c'est possible de parler aux gens, même des gens qui sont toujours au Burundi.
Et dans les pays voisins aussi, vous faites mention de aussi, témoignages, oui, de la Tanzanie, de RDC, du Rwanda, de gens que vous avez pu entendre. Alors, l'un des arguments des autorités burundaises, c'est qu'elles vous reprochent d'enquêter à charge et de ne pas être neutre. Comment est-ce que ces relations ont-elles évolué? Est-ce qu'il y a encore quand même un contact entre les autorités burundaises et vous, ou est-ce que c'est vraiment un silence radio?
Quelquefois, ils répondent aux lettres en disant que non, ils ne veulent pas prendre contact avec nous. Et bien entendu, ils ont le droit de parler devant le Conseil des droits de l'homme. Et là, ils nous font des reproches. Et même à New York, l'année dernière, ils ont dit qu'ils pensaient que toute personne qui critiquait le Burundi, il y aurait la possibilité de porter plainte contre eux.
Est-ce que ce n'est pas lassant de travailler sur des crimes que vous n'avez de cesse de dénoncer, mais auxquels aucune réponse tangible n'est apportée?
Quand on travaille sur les droits de l'homme, il faut toujours penser au long terme. Et l'important de notre travail, c'est de documenter ce qui se passe pour les victimes, parce que comme ça, ils savent que quelque part, ça a été reconnu, ce qui leur est arrivé. Et peut-être dans le futur, ils pourraient avoir des procédures ou au Burundi même, s'il y a un grand changement politique, ou dans d'autres pays. Et bien entendu, il y a aussi la CPI qui a ouvert une enquête. Quand même, c'est une reconnaissance qu'ils ont été victimes d'une violation des droits de l'homme, pour signaler à la communauté internationale ce qui se passe au Burundi. Si ce n'est pas nous, qui est-ce qui va le faire?
Françoise Hampson, membre de la commission d'enquête sur le Burundi. Au Nigeria, le choléra a tué 14 personnes et a entraîné l'hospitalisation d'environ 400 autres cette semaine à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, selon le responsable de santé de Borno, un état confronté à l'arrivée de déplacés fuyant le groupe djihadiste Boko Haram.
Au Mali, l'ère Ibeka aura été marquée par la création d'un poste de chef de file de l'opposition, un statut officiel reconnu pour la première fois dans ce pays. L'opposition juge son propre bilan globalement positif au cours des 5 dernières années. Or, son influence réelle reste relative en raison notamment de la culture politique du pays. C'est ce qu'explique Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité. Il est interrogé par notre correspondant Mahamadou Kan.
On a une opposition qui avait toute rassemblée moins de 30 députés par rapport à la majorité, qui avait une certaine aisance numérique pour faire porter tous les dossiers qui étaient soumis au niveau du Parlement. Donc l'opposition pouvait être forte pour parler, pouvait être forte pour contester, mais ne l'était pas assez pour pouvoir bloquer les dossiers du gouvernement ou même ceux du président de la République. Il y a une incompréhension populaire sur le rôle que peut jouer une opposition. Et très facilement, les actions de l'opposition sont perçues comme des actions contre-productives par certains Maliens qui estiment que s'opposer aux actions du pouvoir ou de l'administration en place, c'est un peu s'opposer au pays.
Baba Dakono et Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité sur le Mali. Dans un rapport publié sur la Mauritanie, l'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, exhorte les autorités du pays à instaurer un moratoire immédiat sur les poursuites et la détention des personnes pour des relations sexuelles hors mariage et à libérer sans tarder toutes les femmes détenues dans ce cadre.
Ce jeudi, le Swaziland, désormais appelé Eswatini, commémore ses 50 ans d'accession à l'indépendance. Comme cadeau, le roi Mswati III a décidé de changer le nom du pays.
L'intention affichée était de se débarrasser d'un vestige colonial. Mais dans cette petite monarchie d'Afrique australe, la nouvelle ne réjouit pas tout le monde. Daniel Pers et Jean-Michel Boss.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Swaziland ou Eswatini? La question fait rigoler Luki Lukele. L'opposant regrette que le changement de nom de son pays n'est tenu qu'à la seule décision du roi.
Il faut être un dictateur pour se réveiller un jour et annoncer qu'un pays change de nom. Une telle chose nécessite une consultation populaire. où vous impliquez les citoyens à tous les niveaux, et ensuite un référendum. Mais ici, le roi se lève et décide de changer le nom du pays.
Le pays s'appelait déjà Eswatini avant l'arrivée du colon. La réintroduction de ce nom ne nécessitait pas de consultation préalable, justifiait le porte-parole du gouvernement. Swaziland est issu d'un mélange de la langue locale Swati et de la langue coloniale, l'anglais. Si la discussion sur le changement de nom existe depuis longtemps, c'est en avril dernier que le roi Mswati III a pris de court ses sujets en annonçant que le pays devait de nouveau s'appeler Eswatini. Annonce faite lors des festivités de son 50e anniversaire qu'il a couplé avec le cinquantenaire de l'indépendance du pays, alors que la date du 6 septembre était encore loin. Certains détracteurs du changement de nom évoquent le coût que cela implique, alors que la vie est dure pour les habitants de la dernière monarchie absolue d'Afrique. Les opposants sont envoyés en prison et la presse n'est pas libre dans ce pays. Doudouzi Guina est membre de la Confédération syndicale nationale. On l'écoute.
We have seen letterhead.
Nous avons remarqué que les entêtes des documents officiels ont commencé à être changées. Ils ont commencé à changer les passeports. D'autres choses, comme les cartes d'identité, n'ont pas encore changé. Même les entreprises sont appelées à changer de nom pour éviter que le mot Swaziland réapparaisse. Elles doivent utiliser le nom Eswatini.
Le Swaziland n'est cependant pas le premier sur la liste. Ainsi, l'actuel Zimbabwe s'appelait Rhodésie du Sud jusqu'à l'indépendance en 1980, tout comme la Haute-Volta est devenue le Burkina Faso en 1984 et le Dahomey devenu République populaire du Bénin en 1972, puis République du Bénin en 1991.
Jean-Michel Boss. Une précision avant de passer au sport. En Côte d'Ivoire, la réforme de la Commission électorale indépendante, la CEI, annoncée début août dernier, concerne l'élection présidentielle de 2020, a précisé hier à Abidjan le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a précisé aussi qu'il n'y aura pas de report des élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Il est 7h17 en temps universel. Vous écoutez toujours la DW.
DW. Le sport. Sophie Serbini.
Début ce soir d'une nouvelle compétition européenne de football, la Ligue des Nations. Une compétition qui a beaucoup fait parler depuis sa création en janvier 2018. La raison, un mode de fonctionnement plutôt compliqué que va tenter de nous expliquer Sophie Serbini.
55 équipes européennes réparties dans 4 ligues vont s'affronter de septembre 2018 à novembre 2019 dans cette nouvelle compétition créée pour remplacer les matchs amicaux jugés sans enjeu par l'UEFA. La Liga regroupe les 12 meilleures nations au classement UEFA, la Ligue B les 12 suivantes, la Ligue C les 15 suivantes et la Ligue D les 16 dernières. Ça, c'est pour la partie facile. Chaque ligue est ensuite composée de 4 groupes de 3 ou 4 équipes qui s'affronteront en match aller-retour. Les premiers de chaque groupe de la Ligue A s'affronteront ensuite dans un Final Four du 5 au 9 juin 2019 dans une ville hôte avec à la clé le titre en jeu. La Liga est entre autres composée de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne ou encore des Pays-Bas. Le match d'ouverture de cette poule aura lieu ce soir et mettra aux prises les Bleus à la Nationalmannschaft dès 18h45 en temps universel. Pour le reste, un système de montée et descente a été mis en place par l'UEFA. Les équipes finissant à la dernière place dans les groupes au sein des ligues A, B et C sont reléguées en division inférieure. A l'inverse, celles qui terminent en tête dans les ligues B, C et D montent à l'échelon supérieur. J'espère que vous me suivez toujours. La Ligue des Nations servira aussi de voie de qualification pour l'Euro 2020. Si des éliminatoires classiques se tiendront bien de mars à novembre 2019 avec 10 groupes et délivreront 20 billets, les 4 derniers seront attribués grâce à la Ligue des Nations par le biais de barrages organisés en mars 2020, soit 3 mois seulement avant le début de la compétition. Une décision qui a aussi fait couler beaucoup d'encre.
Merci Sophie Serbini. C'est donc ce soir à 18h45 le début de la Ligue des Nations qui oppose en match d'ouverture la Mannschaft et la France. Les Bleus, vos pronostics, Fréjus, que l'on...
Ben, 1-0 pour l'Allemagne.
On va voir où est Tennessee.
DW. Racines d'Afrique.
Un peuple sans histoire est un arbre sans racines, un arbre aux racines fauchées est un être livré au vent. Ainsi peut-on résumer la motivation de Philomène Mboke Mboussi, Marie-Joseph Ekobena et Atangwe, et un autre encore, Calvin Patrick Banda Panga.
Bien sûr, les trois jeunes chercheurs des universités de Yaoundé 1 et 2 militent pour une réappropriation de l'histoire de l'Afrique par les Africains en vue d'une vérité historique libératrice, disent-ils. C'est un reportage de notre correspondant au Cameroun, Henri Fotso.
La question du pouvoir avait été résolue en Afrique depuis des millénaires, au moins 5000 ans avant notre ère. Il est lamentable et regrettable qu'aujourd'hui on se mette à se battre pour une question que nos ancêtres ont résolue il y a 5000 ans.
Le pouvoir dans l'imaginaire et dans le mythe africain, c'est avant tout une notion de service. On a le pouvoir parce qu'on doit servir. Ça veut dire que si je suis par exemple le chef du village, je suis en réalité le premier serviteur de ce village.
Ainsi, en tête à tête, dans l'un des laboratoires de recherche de la Fondation Afrique Avenir International à Douala, Marie-Joseph Ekobena Atemenge et Philemon Mobeke Ambossi harmonisent leurs connaissances sur les racines africaines. Aussi parcourt-il des ouvrages qui donnent la parole à des vieux Camerounais ayant vécu la colonisation allemande, française et anglaise. De ces documents, il ressort que la vraie histoire du Cameroun n'est pas encore bien connue et que l'histoire officielle n'est pas exacte.
Cette histoire officielle a été rédigée par les gens qui avaient des intérêts. Donc, ce n'est pas, à proprement parler, quelque chose de neutre.
Je suis absolument et absolument du même avis, car tant qu'il vous manque vos jambes, vous ne pouvez pas marcher. C'est important de pouvoir reconstituer les différentes parties manquantes. L'histoire que nous connaissons, ça a souvent été l'histoire des vainqueurs. Or, forcément, ils ne vont donner que leur vision du monde.
L'histoire est donc d'une importance première pour ces jeunes gens. À plus de 600 km de Douala, leur camarade Calvin Patrick Banda Panga, qui est retourné à l'est du pays après avoir fini de rédiger sa thèse, précise.
L'histoire est fondamentale parce qu'elle permet de situer et elle permet à un moment donné dans l'évolution d'un peuple, dans l'évolution d'une personne, de savoir à quel moment la rupture a été opérée et de pouvoir dire les choses de manière vraie afin de pouvoir nous reconnecter dans notre vérité historique. Et cette vérité historique est un gage justement pour la fondation et pour le renforcement de la nation que nous voulons.
C'est à la lumière de cette position commune sur l'importance de l'histoire que Philemon Mobeke introduit ce qu'il nomme la notion de reterritorialisation.
L'État doit se reterritorialiser. Le blanc était parti, mais il est resté dans nos têtes. Et ce principe fait que lorsque on aborde les études juridiques, par exemple, on se rend compte qu'on étudie tout, mais sauf ce qui a rapport avec le vécu quotidien de l'Africain lambda.
Le peuple camerounais faisant partie du grand peuple africain, Philemon, Calvin Patrick et Marie-Joseph soutiennent que ce peuple est contraint à l'oubli et à l'ignorance de son passé. Marie-Joseph Ekobena trouve d'ailleurs que la crise séparatiste anglophone au Cameroun en est une résultante.
L'ignorance, c'est vraiment la première maladie, l'ignorance de son passé. C'est ça pour moi qui fait en sorte qu'aujourd'hui on arrive à des situations comme celle-ci. Il est important que l'on s'asseye ensemble et que l'on se remémore comment c'était beau d'être ensemble par le passé.
Donc pour Marie-Joseph, le Cameroun, pire que de mal tirer parti de son histoire, l'ignore plutôt totalement. Finalement,
je dirais que ce n'est pas un mal qui est simplement lié au Cameroun. C'est le drame de la Afrique même en général, n'est-ce pas? C'est comme si l'histoire de l'Afrique commençait avec la pénétration européenne en Afrique. Mais la question est donc est celle de savoir qui a peur de l'histoire de l'Afrique? Pourquoi l'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée? Nous devons reconsidérer notre passé, nous asseoir, discuter, et pas pour inventer le passé, juste dire ce qu'a été ce passé, tirer les leçons pour mieux avancer.
Et Marie-Joseph Ekobena de poursuivre.
Un village, c'est plusieurs habitants. Mais il n'y a pas deux habitants dans le monde qui se ressemblent, même les jumeaux, à moins qu'on parle de clonage. Mais c'est de cet arc-en-ciel-là, justement, que naît la beauté même du monde. Pour pouvoir faire partie de cette beauté-là et non pas chercher à être l'appendice de quelqu'un d'autre, il faudrait que l'on travaille justement sur cette histoire-là pour reconstituer notre identité. Cette identité qui fera briller notre couleur, la couleur africaine dans le Conseil des Nations.
Comme dans toute recherche scientifique, nos trois doctorants des universités de Yaoundé 1 et 2 ont rencontré des difficultés qui allaient des problèmes d'accès aux sources documentaires aux problèmes d'interprétation et d'analyse des données, en passant par des problèmes exogènes à la recherche elle-même, tels que le regard des autres. Mais à travers les travaux de Philemon Mobeke Ambusi, Marie-Joseph Ekobena Atemenge et Calvin Patrick Banda Panga, le Cameroun et l'Afrique ont désormais un supplément d'âme et de mémoire fondamental pour un lendemain plus conscient. Henri Fotso, à Douala, pour la Deutsche Welle.
Merci Henri Fotso pour ce reportage. Et nous passons à la parole, c'est-à-dire la page des auditeurs.
À vous la parole.
À peine instaurée, déjà violée, les analystes jugent la trêve à Tripoli en Libye très précaire et la communauté internationale est visiblement dépassée par les événements. Quant aux dirigeants africains, ils semblent muets face à la situation. Mireille Drone a recueilli vos commentaires à ce sujet.
Sur Facebook, Jean-Claude Boucavou en RDC trouve que ceux qui ont commencé cette guerre doivent tout faire pour ramener la Libye à son niveau d'avant la guerre contre Kadhafi. Et Patient Paul de Kinshasa pointe la France, qui a sa part de responsabilité dans cette crise sans fin en Libye. Pourquoi la CPI ne se saisit pas de ce dossier pour interpeller Sarkozy, se demande-t-il. Mais il ne compte pas sur l'Union africaine, dont les membres s'intéressent moins à la situation en Libye qu'à prolonger leur mandat et à s'enrichir. Selon Jacob de Bougna en RDC, c'est à croire que l'Union africaine se trouve incompétente ou ne possède pas des moyens appropriés. Mais Sékou de Bamako pense que les dirigeants africains ne peuvent rien. Les Libyens ont simplement serré la main du diable en complotant contre Kadhafi. Mahamadou Djabidjan souligne, lui, que l'Union africaine n'est en rien responsable de cette situation et n'a pas été consultée pour éliminer Kadhafi. Pendant ce temps, ceux qui tirent les ficelles continuent de pomper le pétrole libyen. Un avis que partage Soulé de Niamey au Niger sur WhatsApp.
Moi, à mon avis, normalement, ce qui se passe à la Libye, ce n'est pas les pays africains qui doivent mettre en sécurité la Libye. Parce que dès le début, c'est les Union européenne, les Occidentaux qui ont fait tout ça là. Moi, à mon avis, c'est eux qui doivent tout faire pour avoir la sécurité à la Libye. Parce que dès le début, il n'y a aucun pays africain qui a mis sa bouche dedans.
Pour Serginho de Lomé, l'Union africaine est un machin sous perfusion de l'Union européenne et d'autres organisations internationales. Qui fait attention à elle, observe-t-il. Tandis que Dédé de RDC trouve que c'est une véritable honte pour l'Afrique qui étale aux yeux du monde son incapacité notoire. Ce qui n'est pas étonnant, selon Fiston de Tembo en RDC, simplement parce que cette organisation pourrie n'a été créée que par mimétisme, écrit-il. C'est un rassemblement de soi-disant sages qui ne font qu'échanger autour des questions relatives à une longévité hors du commun au pouvoir. Ce n'est pas avec une telle organisation que l'on peut espérer voir les crises africaines réglées, nous écrit Fiston.
Merci Mireille, vous êtes toujours sur Info Matin et vous écoutez bien sûr la DW, la radio internationale allemande. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre édition. Frédéric Genome, ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi.
La réouverture ce matin même de l'ambassade de l'Éthiopie à Asmara, en Érythrée, en présence des représentants des deux pays. Le rapport accablant de la commission d'enquête de l'ONU pour le Burundi. Nous suivrons la réaction du pouvoir de Bujumbura, accusé d'alimenter la tension et les exactions. Eswatini et plus Swaziland, la dernière monarchie absolue d'Afrique, fête aujourd'hui son 50e anniversaire d'indépendance de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui accuse le président russe Vladimir Poutine d'être responsable en dernier ressort des attaques au poison Novichok qui ont défrayé la chronique à Londres.
Merci à tous d'avoir suivi Info Matin sur les ondes de la Deutsche Welle. Rendez-vous à 17h en temps universel pour un nouveau journal. Frédéric Genome et moi, Kossivitiasou, nous vous disons au revoir et à ce soir.
Tchuss.
Et tchuss.